Donc, bonjour à toutes et tous. Norolanto Razafini Manana. Donc, je suis indépendante et depuis 2009, j'accompagne les TPE-PME, c'est ma spécialité, sur la e-réputation. Et donc depuis 18 mois, j'accompagne aussi sur la conformité RGPD parce que c'est aussi une gestion du risque comme la gestion de votre image dans la e-réputation. Et donc je viens pour vous présenter, enfin en tout cas pour vous parler de cet accompagnement pour les TPE-PME.
Oui, bonjour, Christian Amis. Donc je suis consultant et formateur sur la partie RGPD et cybersécurité pour des TPE-PME plutôt orientées Occitanie en termes de territoire. Ça depuis peu de temps et sur un travail à mi-temps que je partage avec l'autre mi-temps qui est je suis salarié de IBM en charge de tout ce qui est développement de des offres de sécurité industrielle, donc tout ce qui est SCADA pour ceux qui connaissent et tout ce qui est Internet des objets. Voilà, mais c'est au titre de ma première mission que je suis ici, que je suis également adhérent à la mêlée depuis quelques temps, depuis maintenant 2 ans, plutôt sur Montpellier, et un animateur de la commission sécurité de la mêlée sur Montpellier. Voilà. Accessoirement, je suis aussi officier de réserve citoyenne de gendarmerie, rattaché à la région des départements ex-Languedoc-Roussillon, donc effectivement, je travaille en collaboration avec la gendarmerie pour suivre tout ce qui est autour de la sensibilisation et prévention en matière de cybersécurité.
Oui, bonjour. Je suis Philippe Boulan. Donc, je suis responsable de l'activité sécurité du SI au sein d'InforSud Diffusion. InforSud Diffusion est une ESN qui est basée sur Rodez, Albi et Toulouse. Cette ESN existe depuis un peu plus de 30 ans et dispose d'un data center également basé au nord de Rodez en nom propre. Donc l'activité sécurité était un composant par les années passées de l'infrastructure, réseau, système. C'est devenu une activité à part entière depuis maintenant 4 ans. Et donc je réalise globalement des audits, des tests d'intrusion, mais également des accompagnements pour des entreprises qui souhaiteraient se mettre en conformité par rapport à la norme ISO 27001. Donc surtout les secteurs de sécurité liés au numérique et à l'informatique.
Alors bonjour à tous, je suis Xavier Queno, je suis cofondateur de l'entité Getcas, société qui est lozérienne. En fait, on est spécialisé dans l'hébergement des applications en entreprise. On a une grosse particularité, c'est que notre premier enjeu, c'est les éléments qualitatifs et aussi sécurité. Et on va travailler avec l'ensemble des différentes solutions qu'il y a sur le marché, donc par exemple Microsoft, Amazon, mais aussi des data centers de proximité, afin de permettre aux entreprises de desservir correctement leurs applications ou leurs hébergements. Voilà.
Voilà, donc j'ai réalisé pendant qu'il se présentait que je ne m'étais pas présentée moi-même. Donc je suis Caroline de Rubiana, je suis chargée de mission cybersécurité pour l'agence de développement économique ADOC. Donc je travaille avec Sébastien, entre autres, qui est là, et Nina. Je vous présenterai à la fin l'action régionale en termes de cybersécurité qui, vous verrez, est assez riche. Je vais demander à Christian de nous parler un peu des menaces et ce qui l'amène là. Donc, on est obligé de projeter nous-mêmes, alors c'est un peu...
Voilà, donc... En fait, je vais vous parler de... J'ai prévu une petite présentation parce qu'on m'a demandé en 10 minutes de faire en sorte de parler à la fois de cybersécurité et du RGPD et en quoi l'un est lié à l'autre. Donc, pour essayer de tenir le timing sur un sujet qui peut durer 2 heures, 3 heures, 2 jours, etc., en fonction de ce qu'on peut, je vais me juste rajouter quelques sujets. RGPD, ça je laisserai Norolanto détailler un petit peu le côté accompagnement des PME, TPE, etc. Sur la partie méthodologie. Je vous rappelle que ça s'applique à tous depuis plus d'1 an. Quand on dit tous, c'est-à-dire c'est bien pour les grandes entreprises, ce truc-là. Vous avez tous entendu parler de RGPD, vous savez ce qu'il y a derrière le sigle ? Levez la main ceux qui ne savent pas. Et le... Non ? Règlement général pour la protection des données personnelles. Voilà. Donc voilà. Donc c'est juste, ça doit être, on doit être en conformité depuis le 25 mai 2018. Donc ça fait plus d'1 an maintenant. Quelques objectifs, juste un rappel puisqu'on est là sur une journée numérique. Donc c'est pas quelque chose qui est fait pour empêcher le business numérique et l'internet. Au contraire, c'est écrit dans le texte de loi, dans tout ce qui est en amont des lois, donc tout ce qui est les considérants. C'est l'objectif est de faciliter la transition numérique et le commerce en ligne. Donc on est exactement, c'est une loi qui est là pour aider à faire du commerce numérique, restaurer la confiance que de temps en temps on a perdue dans Internet, en responsabilisant les acteurs d'Internet. Je préfère le rappeler, puisque souvent on voit ça comme quelque chose de négatif, et mon propos, ça va être d'essayer de vous prouver avec les menaces qu'il y a derrière, que ça peut être quelque chose de vertueux et de positif pour toute taille d'organisation. Rappel des enjeux, ça je pense que Neurolanto, je pense que tu en parleras, mais voilà, RGPD c'est une centaine d'articles, 90 pages, je vous ai mis tout sur un slide, ce qu'il faut connaître, voilà, j'en parlerai pas plus, mais
tu
bon, vous avez compris.
Je peux quand même rappeler que c'est quand même la suite de la loi informatique. Alors, et liberté de 78.
Tout ce qui est en bas ici.
C'est des choses qui existaient voilà. Déjà avant, simplement ça a été généralisé à toute l'Europe.
Et c'est vraiment
pour aider les gens.
Essentiellement sur ce volet-là, tout ce qui est accès, suppression de vos données personnelles, quand vous donnez une donnée personnelle, un nom, etc., ou tout type d'enregistrement, on doit toujours récolter ces données-là pour une certaine finalité, on doit les conserver un certain temps, on doit en assurer la sécurité, etc. Il y a tout un tas de concepts, effectivement, qui sont dans la loi informatique et liberté de 78, qui a été renforcé en 2004-2006 par tout ce qui est la loi sur le numérique, sur l'économie numérique, et puis par couches successives, les textes de loi jusqu'à effectivement juin donc 2018, l'adaptation de cette loi à tout ce qui est RGPD. Donc nous Français, si vous n'êtes pas conforme déjà avec tout ce genre de choses, vous avez juste 40 ans de retard. Voilà, faut le savoir. Voilà, vous n'avez pas un an de retard sur la conformité, vous avez juste 40. Donc ça se rattrape, et je vais vous expliquer que c'est simple. Voilà, le changement de responsabilité, ce qui est nouveau quand même pour tout le monde, c'est le principe, et vous allez voir qu'en cybersécurité, c'est extrêmement important, et c'est surtout très positif, j'allais dire, dans l'état d'esprit que doivent avoir les gens. C'est tout le côté responsabilité, accountability, qui est important, que j'ai mis en rouge ici. Accountability, ça veut dire que vous devez prouver que vous avez fait ce qu'il faut pour protéger les données. En gros, je le simplifie de manière un peu extrême parce que on n'a pas le temps de s'appesantir, mais vous devez simplifier ça, et l'ensemble des acteurs effectivement a les mêmes responsabilités, y compris vos sous-traitants. C'est-à-dire qu'à l'ère de l'économie numérique, quand vous sous-traitez en mode SaaS ou dans le cloud, etc., des tas d'applications ou des données, votre sous-traitant est aussi responsable que vous. Voilà. D'autre part, bon, les devoirs des entreprises, juste ce qui est en rouge, parce que l'objectif n'est pas de faire du RGPD, mais ce qui est important aujourd'hui, et je suis content que cette table ronde ait lieu au début, le matin, et qu'il y a encore d'autres tas d'autres ateliers, etc. derrière, parce que vous parlez de beaucoup d'innovations, de nouvelles applications, de nouvelles mises sur le marché, d'Internet, etc. Il faut penser au privacy by design et by default, c'est-à-dire qu'à un moment donné, permettre juste de reciter ce qui a été présenté juste avant. Vous voulez effectivement commander des repas en ligne. À un moment donné, vous lancez votre application, il faut avoir pensé un minimum à la sécurité. Pourquoi ? Parce que si à un moment donné, quelqu'un va vous commander un plat cachère ou un plat halal ou des choses comme ça, ce sont des données extrêmement sensibles et des données personnelles ou des données de santé sur des allergies ou des choses comme ça qui sont considérées comme des données extrêmement sensibles. Donc il faut avoir pensé en amont la sécurité de l'ensemble de votre chaîne, en fait, quand vous créez un produit, que vous créez un objet connecté, etc. Voilà. Donc j'en dis pas plus sur cette partie-là. Alors, contrainte ou opportunité, on m'a demandé de faire le lien avec la démarche. Et là, je vais plutôt vous expliquer ce qui se passe quand je suis chez des clients. On a commencé par du conformité RGPD, parce qu'il y a une date, il y a une loi, il y a une obligation, c'est le truc pénible, allez, on va s'y coller. Au bout de 2-3 réunions de travail et d'ateliers pour faire les registres de traitement, les gens se rendent compte que, mais attendez, on parle des données personnelles, mais c'est peut-être beaucoup plus important pour mon activité, mes données fournisseurs, mes prix d'achat, mon savoir-faire sur la production, puisque je me suis fait piquer un savoir-faire de production et j'ai perdu un marché, etc. Donc les gens commencent à avoir cette réflexion, et c'est le côté positif, j'allais dire.
C'est là où on retombe sur la cybersécurité.
C'est là où on retombe sur la cybersécurité, parce que le RGPD, j'ai fini, j'en parle plus, si ce n'est que c'est un catalyseur pour pouvoir démarrer effectivement cette démarche de cybersécurité. Voilà, meilleure qualification du fichier client. Vous envoyez une newsletter à des clients qui doivent vous donner un consentement. C'est juste une newsletter. Si à un moment donné, vous avez 8000 clients chez qui vous envoyez les trucs, vous en avez 7000, c'est du spam. Ils vont considérer ça comme du spam. Il vaut mieux en avoir 1000 qui vous disent « oui, je veux recevoir votre newsletter » que 8000 où vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire. Donc les gens se sont rendus compte de l'effet positif induit par la qualification d'un fichier client, de réels clients qui veulent recevoir votre newsletter, donc qui sont potentiellement des clients intéressants. Voilà, mise en évidence des vulnérabilités. Pourquoi ? Je vous ai parlé d'accountabilité. Je vous fais le lien là maintenant. Accountabilité, vous devez prouver que vous sécurisez les données. Si vous vous rendez compte que tout le monde a accès au serveur parce que tout le monde est admin avec le mot de passe, etc., comment vous allez prouver à un moment donné que vous protégez la donnée ? Donc à un moment donné, les gens se posent la question, oui mais attendez, il faut que je sache qui se connecte à quoi, à quel moment et accède à quelles données si je veux pouvoir prouver que je le respecte. Donc ça, on revient sur des notions qui sont très simples, j'allais dire d'informatique de base, mais qui n'est pas appliquée. Et les gens commencent à voir cet aspect sur la cybersécurité. Voilà. Alors la cybersécurité, 2 minutes. Bon, quelques éléments de contexte sur la cybersécurité. Et puis le colonel juste derrière moi vous présentera aussi ce qui se passe sur la Lozère, parce que vous êtes en Lozère, voilà. Sur la cybersécurité, bon, je vous passe effectivement là-haut quelques éléments. Ce sont des citations, vous les lisez vous-même. Juste pour vous dire, bon, Fleury Michon, qui est un cas récent, Fleury Michon, les gens qui découpent du jambon en Vendée, s'imaginaient pas qu'à un moment donné, ils allaient être la cible. Bon, d'autres, je l'ai pas écrit, mais ça se sait de notoriété, ceux qui font des croquettes pour chiens dans le Gard, quelques semaines d'arrêt à cause d'une demande de rançon, ça peut faire mal. Et pourtant, qui va attaquer une entreprise qui fait des croquettes pour chiens ou qui tranche du jambon ? Voilà, on peut se poser des questions de savoir pourquoi on est ciblé en tant que PME. Alors pourquoi ? Parce que les PME n'ont pas les mêmes moyens que les très grosses entreprises. Je pense que Airbus a des armées de gens qui vont protéger la cybersécurité, mais effectivement, Fleury Michon ou autres n'ont pas ces mêmes moyens. Voilà. Donc, je passe juste sur les motivations. Alors, juste, j'ai un petit slide sur les motivations des hackers. Pourquoi vous pouvez aussi être ciblé ? Vous ne l'êtes pas tellement là-dessus. Bon, j'ai pas le temps de vous donner des exemples particuliers, mais vous voyez que. Ça, c'est ce que vous voyez dans la presse. C'est les attaques, c'est les arrêts de centrales nucléaires, c'est les Américains contre les Iraniens, etc. Enfin, ça, vous le voyez. Vous n'êtes pas forcément directement impliqué. Quoique, potentiellement, sans vous en rendre compte, vous pouvez être un des maillons d'une attaque un peu plus sophistiquée sur ce genre de choses. Par contre, et ça, le colonel, je pense, vous en reparlera derrière, le crime organisé, demande de rançon, fraude, fraude aux faux virements, etc., vous pouvez être la cible. Les PME sont beaucoup plus la cible que d'autres grandes entreprises. Vous avez tout ce qui est curiosité challenge. Allez, je vais rentrer dans le site, combien de temps je mets, etc. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être... Alors souvent, il n'y a pas trop de dégâts là-dessus. C'est pas compliqué. Ce que je veux vous dire qui est très important, c'est celui du bas. Un salarié mécontent. Vous êtes agriculteur, vous êtes obligé de vous séparer d'un employé. À un moment donné, ça se passe très mal. Qu'est-ce qu'il va faire l'agriculteur ? Tout à l'heure, j'entendais des colliers connectés pour les vaches, pour des choses comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire ? Opération de sabotage. Il va faire, effectivement, il peut se décaler d'un cran en accédant au serveur quelque chose, et il va vous saboter le travail, il va vous multiplier par 2 la ration, ou vous diviser, ou vous multiplier le pesticide, c'est des choses que j'ai déjà vues, multiplier la dose de pesticide, et vous vous retrouvez, effectivement, avec un contrôle sanitaire derrière. Voilà. Donc là-dessus, voilà, bon, ça c'est les remèdes, mais je pense qu'on en parlera après, on pourra toujours en parler après. C'est les remèdes, c'est que un certain nombre de mesures simples peuvent effectivement pallier à ce genre de défaut. Voilà, je vous ai brossé un petit peu le panorama. Mon colonel, je vous laisse la parole pour parler alors de la Lozère. Je vous ai parlé des TPE, des PME dans d'autres départements, mais vous parlez peut-être de la Lozère, quelques minutes. Oui, en attendant, je vous donne juste une petite illustration sur ce que je vous disais sur des types de risques pour que vous imaginiez effectivement les types de risques en matière de cybersécurité. On parlait par exemple d'attaques sur des centrales nucléaires, etc. ou ailleurs. Il faut pas oublier que la cybersécurité, c'est partout et ça concerne tout le monde. Je vous donne un exemple très concret. Je vais de temps en temps en vacances dans des gîtes de France. Il y en a beaucoup en Lozère. Peut-être certains vous en ont. Souvent, on vous donne le code Wi-Fi. On vous donne accès au code Wi-Fi pour pouvoir effectivement aller sur Internet. Il m'est arrivé effectivement dans certains cas de retrouver la messagerie effectivement du propriétaire directement en clair. Il faut faire changement d'utilisateur pour arriver sur ma messagerie Orange à moi avec le mot de passe, etc. Mais j'ai en clair son carnet d'adresse, ses mails, etc. Parce que gentiment, il m'a accédé ça. Sauf qu'à un moment donné, j'étais en face de 2 anciens salariés d'Areva. qui s'occupaient de la sûreté d'un site nucléaire dans la vallée du Rhône et qui ont monté un gîte. Donc je leur ai dit, faites attention parce que c'est pas votre gîte qu'on va venir chercher, qu'on va venir visiter. C'est effectivement votre carnet d'adresse qu'on va venir visiter. Donc ne faites pas ce genre de choses parce que vous êtes ancien de la sûreté. En regardant sur LinkedIn ou sur Facebook ou autre chose, on peut savoir effectivement que vous étiez dans ce genre de fonction auparavant. Et vous risquez d'attirer effectivement, vous allez voir votre Ardèche, des touristes chinois, ukrainiens ou autres, et ne vous étonnez pas, quoi. Voilà, donc sachez que ce genre de choses, on ne l'a pas en tête forcément parce qu'on se dit on change d'activité, mais du coup, c'est des règles, dans les règles simples de l'ANSSI que vous pouvez aller voir sur le site, vous avez des règles simples qui est de ne pas mélanger la partie professionnelle et personnelle, mettre des mots de passe, mettre des accès Wi-Fi différenciés. Voilà. Et ça peut donc concerner tout le monde. Voilà. C'était l'exemple que je voulais leur donner. Je rends la parole au colonel. Allez-y.
Merci. Donc, très rapidement, on va y arriver. Voilà. Donc, on va poursuivre un petit peu ce que vous disiez avec quelques chiffres. Alors, pas beaucoup, mais voilà, des chiffres qui datent de 2017. 63 000 plaintes. Alors, on est au niveau national, là, évidemment. C'est un tiers de plus que l'année précédente. Et puis, si on continue, à comparer les chiffres de 2018, on est également en hausse. Le préjudice, vous voyez, il est très important. Alors là, c'est le préjudice direct pour les sociétés qui sont attaquées. Ensuite, on peut parler d'un préjudice qui est évalué à environ 6 millions d'euros pour l'État et qui regroupe tout ce qui est prévention, donc l'ANSSI et tout ce qui fait de la prévention sur les cybermenaces, plus tout ce qui est le traitement de ces cyberattaques. Les forces de sécurité intérieure qui travaillent sur le sujet, la justice derrière qui doit passer également. Donc voilà le préjudice également un peu plus indirect directement pour l'État. 57% des attaques ciblent les PME, là on commence à être un petit peu plus sur le territoire, puisque on est sur un tissu essentiellement de PME, mais j'y reviendrai un petit peu plus précisément juste après. Voilà, en France, 13 millions de personnes touchées. Les derniers chiffres début 2019 sur les sociétés, on estime qu'entre 75 et 80% de sociétés ont subi au moins une attaque dans l'année précédente. Voilà. Donc aujourd'hui, la question, c'est pas de savoir est-ce qu'il faudrait peut-être se préparer, est-ce qu'on va peut-être être attaqué. En fait, non. La question, c'est on va y être. Donc qu'est-ce qu'on fait pour se prémunir des éventuelles cyberattaques sur nos systèmes d'information? Les attaques du moment, les plus courantes, vous les connaissez. Le phishing, donc là qui vient par des moyens malveillants, beaucoup de mails, hein, qui dans leur pièce jointe ont quelque chose qui vient installer un malware sur les systèmes d'information. Les virements au faux président qui continuent à être utilisés quand même. Et puis comme on parle des PME, alors je sais pas si on a des élus dans la salle, mais les collectivités territoriales ne sont pas également exemptes d'être également attaquées. Alors, soit pour des raisons, je ne veux pas dire politiques, mais enfin, uniquement pour ennuyer le système, soit pour des raisons un peu plus directes. Alors, qu'est-ce qui se passe en Lozère ? En Lozère, on est dans un contexte particulier, un peu paradoxal. On est sur un territoire ultra-rural, mais néanmoins, la table ronde précédente démontre que dans ce territoire d'ultra-ruralité, on a également du numérique qui se met en place. Voilà, donc, et donc sur le plan professionnel, 11 000 entreprises, des créations d'entreprises en hausse constante, des ZRR qui bénéficient d'avantages fiscaux et qui vont continuer donc à voir des entreprises venir se développer. Et puis, je vous rappelle qu'il y a bien un peu plus de 100 millions d'euros qui ont été mis sur la table par Orange, par les collectivités territoriales, par l'État, pour que ce département soit entièrement fibré avec le très haut débit à horizon 2022. Donc, les menaces sur les systèmes d'information qui vont continuer à se développer en lien avec le très haut débit, évidemment, ont continué. Très rapidement, on est sur des petits chiffres. En Lozère, on est le plus petit département de France, le plus petit groupement de gendarmerie de France, le moins délinquant, mais le moins délinquant, il constate quand même de la délinquance. Et sur la cybercriminalité, vous voyez, essentiellement de l'escroquerie. Néanmoins, 10 faits de CryptoLocker là, sur les derniers mois. Voilà, des atteintes au système de traitement automatisé des données. Voilà, donc le panel, malgré tout, est présent sur le territoire au niveau de la délinquance numérique. sur les 6 derniers mois, deux exemples très particuliers, deux sociétés qui ont pignon sur rue. La première qui est un vendeur de boissons losérien, une société qui doit faire de mémoire 7 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, donc une grosse société, s'est fait cryptoloquer son système d'information. Hein. Deux ordinateurs ont été coincés. Donc, perte de commandes en cours, perte de l'inventaire du stock, perte des nouveaux documents publicitaires qui venaient d'être livrés. Enfin, voilà. Donc, ils s'en sont sortis parce qu'on est sur un petit territoire, parce que le gérant de la société avait connaissance de quelqu'un qui connaissait notre technicien en nouvelle technologie, qui finalement a pu venir intervenir assez tôt. Et donc, on doit être sur 24 heures de manque d'exploitation de la société. Mais c'est une société qui fait beaucoup de livraisons à des délais très courts et sur lesquels les journées qui passent sont des journées de pertes financières directes, évidemment. Le deuxième, c'est une société qui fait de la vente en ligne d'épicerie fine, à 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous donne quand même le chiffre d'affaires que font ces sociétés parce que, en parallèle, on trouve, nous, qu'elles sont peut-être pas forcément toujours assez sécurisées. Donc on y reviendra un petit peu plus tard. Hein. Il y a aussi des choses à faire en termes de prévention pour se sécuriser. Et là, on est sur une histoire de cartes bleues. Donc les cartes bleues qui sont utilisées pour faire des achats, qui sont livrées dans un temps assez court, voire très court, sont des cartes bleues qui ont été arnaquées, dont les codes ont été volés. Et donc, quelques jours après la livraison, les débits sont retirés, enfin les crédits sont retirés du compte de la société. Donc, la livraison a été faite et le paiement, qui pendant un jour certes, était bien à la banque, a été retiré puisqu'en fait, on est sur un acte malveillant. Donc là aussi, évidemment, de la perte sèche. Et là, du coup, de la perte vraiment sèche parce que les denrées sont parties et l'argent n'est pas rentré. Là, on a une bonne nouvelle. L'enquête, en revanche, a abouti. Et là, on est sur une personne qui, dans un département voisin, avait accès, parce que dans son activité professionnelle, elle avait accès à des données de cartes bancaires de gens qui venaient réserver pour des spectacles. Et donc, évidemment, elle récupérait de temps en temps quelques coordonnées bancaires pour les utiliser là-dessus. Donc, on a fini par remonter cette personne et par l'interpeller. Dans tout ça, qu'est-ce que fait la gendarmerie ? Alors, la gendarmerie, elle utilise ce qu'elle sait faire le mieux, c'est-à-dire un système de subsidiarité. Donc, au niveau du territoire, on a 30 correspondants NTEC. Alors, NTEC, nous, pour nouvelle technologie, donc enquêteurs en nouvelle technologie. Donc, ces 30 CNTEC, ce sont des gendarmes du quotidien, ce sont ceux qui font la patrouille, ce sont ceux qui viennent chez vous constater un cambriolage, venir régler des violences intrafamiliales, venir parce que vous nous appelez pour telle ou telle raison. Mais on leur a donné un petit plus et un petit vernis qui leur permet à ce niveau-là d'être sur le niveau constatation simple et surtout préservation des traces numériques. Ils n'ont pas vraiment les moyens technologiques d'aller chercher la preuve numérique, d'exploiter les systèmes de données, mais néanmoins, ils doivent permettre que le niveau au-dessus, puisqu'on est sur un système de subsidiarité, vienne travailler. Donc le deuxième, c'est le NTEC, vraiment l'enquêteur en nouvelle technologie. Lui, il est unique sur le département. Ça aurait été aussi bien que ce soit lui qui vienne en parler aujourd'hui, mais comme il est unique, il est de temps en temps aussi en repos et de temps en temps aussi en permission. Donc on lui a permis de partir. Voilà, donc lui, en revanche, il a les moyens au bureau. C'est le géotrouve-tout de la maison. Là, il a des ordinateurs plein son bureau. Et lui, il est en capacité d'exploiter téléphone, ordinateur, toutes les traces numériques. Donc lui, si les correspondants ont bien fait leur boulot, quand il arrive, il est en capacité d'aller chercher les preuves numériques pour constater l'infraction. Au niveau national, quand vraiment on est dépassé par des phénomènes très particuliers, la pédopornographie notamment est beaucoup traitée à ce niveau-là, on a la cellule de lutte contre la criminalité numérique, le C3N, qui est une émanation du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, dans lequel on retrouve normalement un acronyme que vous connaissez, l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Donc voilà, on a une émanation numérique depuis plusieurs années qui dans laquelle on trouve des experts là, de très haut niveau qui sont en capacité d'aller bien plus loin dans les analyses. Plus qu'une minute. Donc pour vous dire que le département n'est pas exempt de cybercriminalité, qu'il faut évidemment vous prémunir, que néanmoins, on l'a déjà dit, et il est bon de le répéter, souvent c'est l'interface entre le monde et la machine qui pose difficulté. Hein, c'est souvent une personne qui, à un moment donné, a ouvert la mauvaise pièce jointe ou a fait une mauvaise manipulation. Voilà. Alors, pour éviter tout ça, vous avez aujourd'hui, qui est lancé depuis quelques mois, le site cybermalveillance.gouv, là, qui est plutôt pas mal fait, qui donne beaucoup de bonnes informations. Puis vous avez évidemment le site de l'ANSSI, avec le guide des bonnes pratiques informatiques, l'hygiène informatique, les 12 bonnes manières de prévenir tout ça. Il faut évidemment que vous ayez dans vos sociétés quelqu'un qui, à minima, s'il n'est pas uniquement posté sur la sécurité des systèmes d'information, ait une connaissance de tout ça assez fine, parce que c'est lui, en cas de problème, qui va être celui qui va permettre de ne pas perdre trop de données. Parce que là aussi, vous allez peut-être attendre que je vous donne la manière de faire, si vous êtes cryptologué ou si vous commencez à avoir un problème sur votre système d'information. Mais on est tellement dans des choses qui sont différentes les unes des autres qu'en réalité, la première bonne idée, souvent, c'est de se débrancher du réseau. Et puis ensuite, il faut tout de suite se retourner vers votre responsable du système d'information pour voir avec lui, parce que chaque petit mouvement derrière que vous allez faire, chaque clic que vous allez faire est en capacité de venir détruire ou pas un certain nombre de données. Vous pouvez toujours nous appeler, donc le réflexe 17 est toujours un réflexe qui fonctionne bien. De toute façon, nous, ça nous intéresse que vous déposiez plainte. Ça nous intéresse pour deux raisons. D'abord, parce qu'il y a une infraction et que on est plutôt dans l'idée que les infractions, il faut qu'elles soient punies. Et puis surtout, en fait, on sait que dans cette cybercriminalité, on a quand même un gros chiffre noir, parce que certaines sociétés ne souhaitent pas déposer plainte pour des raisons X ou Y. Souvent, s'ils ne déposent pas plainte, c'est que le préjudice est quand même limité, mais ça ne fait rien. Néanmoins, si cette société-là a un préjudice limité, peut-être que la suivante, elle en aura un bien plus important. Donc nous, on a envie d'avoir la connaissance du maximum de ces affaires. Donc même si vous ne souhaitez pas déposer plainte, appelez-nous quand même, dites-nous ce qui s'est passé. Si vous ne souhaitez pas déposer plainte, on ne va pas vous mettre en garde à vue pour ça, pas de problème. Vous nous expliquez, on vient analyser ce qui s'est passé et ça nous permet de faire de la prévention un peu plus précise sur ce genre de phénomène. Voilà ce que je pouvais vous dire et je crois que j'ai terminé.
Oui. Si, il faut qu'on... De toute façon, je suis obligée de...
Voilà, il faut juste qu'on garde le contact. Donc la page Facebook du groupement de gendarmerie départementale de la Lozère est à disposition pour vous donner régulièrement des informations. Et en avant-première, je vous présente la photo de profil de notre compte Twitter qui doit être ouvert la semaine prochaine. Donc vous êtes des privilégiés aujourd'hui. C'est une avant-première.
Bon. Je vous laisse la parole. Allez-y. Voilà, allez-y. Je vous laisse. Oui, allez-y. Donc vous avez, en fait, voilà, nous avons trois personnes qui font de l'accompagnement, qui proposent des solutions. Donc je vous propose de nous parler un petit peu de votre façon d'aider les entreprises à faire face à ces problématiques.
D'accord. Alors, c'est vrai que quand en fait on nous a dit qu'il fallait absolument être conforme au RGPD, il y a un aspect très technique et en fait lié à la cyberattaque. Mais il n'y a pas que ça en fait. D'abord, le RGPD, il faut en fait se rappeler que c'est lié aux données personnelles. Les données personnelles, évidemment, c'est nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, mais c'est aussi par exemple la voix. C'est aussi, par exemple, les images vidéo. C'est aussi les cookies. C'est pour ça que, quand vous arrivez sur un site, on vous demande d'accepter les cookies. Ce qui est important à comprendre aussi, c'est que les données personnelles, en fait, n'appartiennent pas à l'entreprise. Elles sont confiées par la personne à l'entreprise, qui doit les utiliser pour un traitement spécifique. Et, en fait, la philosophie du RGPD, c'est que quand le traitement est terminé, eh ben, elle doit supprimer ces données. Ça, c'est très important à comprendre. C'est pour ça que on vous dit, par exemple, il faut demander à la personne d'autoriser le traitement. Et après, on vous dit, quand c'est fini, par exemple, vous avez, on va dire, par exemple, un paiement e-commerce. Quand c'est fini, normalement, les données, par exemple, de carte bleue, qui sont des données personnelles, sont détruites. Donc, c'est vrai que tous ces en fait, enchaînements de process, en fait, qu'on fait de façon automatique depuis un certain temps, on se pose pas trop la question. On est sur, on va dire, un process commercial, un process marketing, et ainsi de suite. Maintenant, il faut comprendre que les données qui nous sont confiées, il faut qu'on, on va dire, on les préserve, on les sécurise, et après, éventuellement, on les élimine ou on les archive. C'est à peu près ça, en fait, on va dire la vie d'une donnée chez nous, enfin, dans l'entreprise. Donc, ça c'est pour vous dire que il y a encore autre chose à faire que mettre en place des systèmes de protection. Il y a, par exemple, à mettre, on va dire, à plat vos process métiers. Alors, c'est ça qui est intéressant justement dans le RGPD, c'est que souvent on n'a pas le temps de mettre en place, de mettre à plat ces process métiers. Et on a accumulé plein de process. Et puis, au bout d'un moment, en fait, on ne sait plus, enfin, si, on sait ce qu'on fait, mais parfois, par exemple, on a un dédoublement de process. Il y en a un qui fait ça d'à côté et l'autre le fait aussi. Par exemple, aussi, on a un dédoublement de base de données. On veut envoyer, un emailing. Alors, on prend un bout de base de données, et puis un autre département fait aussi un emailing, il prend un autre bout de base de données, et donc on a plein de bouts de base de données partout. Et en fait, maintenant, entre guillemets, c'est interdit de faire ça. Voilà. Ou sinon, vous le faites, mais toujours pour, on va dire, ce qu'on appelle la finalité, c'est-à-dire que si c'est un emailing, vous avez demandé l'autorisation pour un emailing commercial, vous faites que du commerce. C'est, par exemple, il y a une entreprise, en fait c'est une mutuelle, qui a été sanctionnée par la CNIL parce qu'elle avait des données pour travailler sur la retraite qu'elle a utilisées pour faire de la prospection commerciale. Et avec le RGPD, donc, c'est le plus possible. Donc ils ont été en fait sanctionnés pour ça. Donc mettre à plat ces process, c'est le grand intérêt en fait de se mettre en conformité RGPD. Après, quand on met à plat ces process, on se rend compte aussi qui est responsable de ces process. C'est important. Parce que par exemple, après ça dépend de la taille de l'entreprise, mais par exemple, si vous, en fait, vous avez un process pour prendre des commandes, c'est très difficile que vous soyez aussi là pour en fait toute la comptabilité. Il faut arriver à cloisonner, entre guillemets, les tâches et les responsables de process. Le RGPD va vous servir à faire ça. Après, c'est vrai que dans toutes les structures, on a tous, en fait, plusieurs casquettes. Mais c'est important de le faire parce que ça permet aussi aux gens qui sont responsables d'un process de le faire bien et de se dire, moi, je ne peux pas t'autoriser à faire ça parce que tu n'as pas ce qu'on appelle l'habilitation.
Et voilà, on reprend l'antenne, on va s'arrêter. On va s'arrêter pour cette conférence qui est en train d'être donnée en ce moment, que vous entendez depuis tout à l'heure, sur la protection des données personnelles et des enjeux de la cybersécurité, parce qu'on est en direct pour un plateau radio. Ici, à l'espace événement Georges Fraîche, on est en direct toute la journée, avec des jeunes collégiens de Saint-Privat, du collège Saint-Privat de Mende, des 4e. Alors on a avec nous Mia qui est là, salut Mia.
Salut.
On a également Baptiste.
Salut.
Manon.
Bonjour.
Et Victor.
Salut.
Alors merci d'être là. Un invité, Quentin Belin d'AFAM Multimédia. Salut Quentin.
Salut.
Voilà, alors Quentin d'AFAM Multimédia qui va venir avec moi un peu pour poser des questions à nos jeunes collégiens. Sur le thème donc d'aujourd'hui, on s'était donné comme thème pour discuter avec vous sur l'utilisation des réseaux sociaux en tant que jeune adepte du numérique. En quoi concerne le numérique? Qu'est-ce que le numérique pour vous? On va vous questionner maintenant. Avant ça, Quentin, je voulais te demander peut-être de présenter AFAM Multimédia.
Ouais. Alors on est une agence de communication, ça fait 15 ans qu'on est installé en Lozère, au Monastier. Donc une agence de communication au sens large, on a plusieurs domaines d'activité. Le domaine d'activité lié au numérique principalement, donc c'est la conception web, création de sites internet, de sites web, stratégie éditoriale, référencement, web marketing, tout ce qui englobe en fait la conception web. Maintenant c'est plus juste du code, c'est pas que du développement, il y a plein de choses autour, l'ergonomie, etc. Un domaine identité visuelle, donc tout ce qui va concerner le print en fait, la création d'affiches, la création de flyers, la création de chartes graphiques pour une entreprise, une organisation. On a un pôle audiovisuel, donc c'est-à-dire photo vidéo, réalisation de photos, photos artistiques pour des books ou alors pour des entreprises aussi, d'environnement, de pack shot, de produits par exemple, et réalisation vidéo de spots promotionnels. Voilà, c'est les trois gros domaines d'activité, et on est aussi formateur avec mon associé, on est deux. On est formateur, on forme nos clients sur sur les technos qu'ils ont besoin dans leur vie professionnelle. Et on intervient aussi en tant que professeur à l'université de Mende et du Puy-en-Velay.
C'est assez large.
On est deux, mais après, il faut savoir, on est deux, mais on bosse beaucoup en réseau. On y tient énormément à ça. On bosse en réseau avec beaucoup d'indépendants en Lozère, que ce soit Fablacan qui est développeur 3D, on bosse avec Allemand de Numenkop qui est développeur aussi, la fabrique à images pour les images drones parfois ou en appui vidéo. Voilà, on est que deux, mais on se crée un réseau aussi d'indépendants en Lozère, on aime beaucoup pour pouvoir répondre des fois à des offres un peu plus grosses, quoi. Voilà, en gros.
D'accord. J'ai l'impression que dans ce domaine, on est obligé un peu d'être un couteau suisse quand même.
Le numérique est super large. Il y a beaucoup de domaines d'activité. Et en tout cas, on se doit, surtout quand on est une agence de com, on est là pour répondre à des problématiques du client et il a des besoins. Et en tout cas, on doit être capable de répondre à tous ses besoins. Qu'il soit il veut juste une carte de visite ou alors il veut le package total avec la vidéo, les photos, tout ce qu'il a besoin pour son identité, pour lui, quoi.
Alors on y reviendra après parce qu'en plus c'est intéressant, tu es au Monastier à La Ruche.
Ouais. Donc, c'est un très bel établissement qu'ils ont créé. Ouais.
Voilà, donc on va y revenir après. On va discuter un peu avec nos jeunes. On est au salon du numérique, on parle numérique toute la journée, différents thèmes, différents domaines. Moi j'aimerais savoir pour vous, si vous deviez définir ce mot, le numérique, qu'est-ce que serait pour vous le numérique, Mia?
Les téléphones ou les ordinateurs.
Baptiste,
moi, ça serait plutôt sur tous les ordinateurs, tout ce qui est technologie. Et par rapport au métier, ça aide beaucoup.
Moi aussi, Internet aussi.
Tout ce qui nous sert à nous connecter par Wi-Fi, par tout ce qui est en Wi-Fi connecté.
Les jeux aussi, en ligne.
Quentin, tu es d'accord avec ces définitions ?
Ouais, carrément. Mais tout ce qu'ils ont dit, c'est ça. Ça englobe entre autres tout ça. Le numérique, en fait, c'est aussi l'informatique, tout simplement. À la base, c'est ce qu'on appelait informatique. On l'appelle numérique maintenant parce que ça s'est développé à d'autres supports. On a plus de supports. C'est pas que juste un ordi. Et à la base, ça sert surtout à travailler. Et moi, je voulais leur demander si déjà, est-ce qu'ils bossent avec les ordi au numérique ? Est-ce que ça vous aide à bosser ou...
Au collège, déjà, on apprend à se servir de plusieurs
logiciels.
Par exemple, PowerPoint, Word.
Ah oui, ouais. Déjà.
Des choses comme ça.
Ok, ouais.
Est-ce que vous faites des recherches aussi ? Vous avez un travail à faire, vous avez besoin d'informations. Est-ce qu'on a délaissé le dictionnaire et pour chercher sur Internet ou pas ? Manon et après Mia. Manon ?
Oui. Enfin, on se sert plus trop du dictionnaire qu'en français, sinon on se sert d'Internet.
Mia ?
Ouais, pareil, quand on a besoin d'informations pour un exposé ou quoi que ce soit, on va sur Internet, c'est plus simple. Et quand on apprend des langues aussi, c'est plus simple de chercher la traduction directement que dans le dictionnaire. Ça va plus vite.
Vous cherchez des informations sur quoi quand vous cherchez sur Internet ? Sur quel site ? J'attends le site de dictionnaire connu et reconnu. Quand vous voulez chercher des définitions, par exemple.
Quand c'est des définitions, Baptiste. On ne cherche pas un site en particulier, mais après, quand on cherche des choses, par exemple, pour des personnes qui sont mortes, des sujets intéressants, on va sur Wikipédia ou d'autres sites dans ce genre.
Voilà, c'est le site que j'attendais, voir encore si chez vous ça marchait.
Et Wikipédia, vos profs, vous leur dites que vous bossez des fois avec Wikipédia, vous allez chercher des références et tout, et ils en pensent quoi ?
Moi, on m'a dit qu'il ne fallait pas chercher que sur un site, mais plusieurs sites différents pour voir plutôt les plusieurs réponses et plusieurs...
Pour recroiser les informations, Okay.
Pour vérifier, parce que quand on leur dit des fois, on s'est servi de Wikipédia, ils nous disent, mais Wikipédia, il ne faut pas trop non plus compter sur celui-là, il faut vérifier.
Mais
ils nous disent que sur Wikipédia, on peut changer les informations, du coup, c'est pas toujours vrai.
Alors, c'est vrai que c'était le souci. Moi, je me souviens, il y a 10 ans, quand j'étais au collège, il y a 10-12 ans, c'était interdit d'utiliser Wikipédia parce que tous les profs considéraient que c'était le mal absolu, qu'il y avait que des conneries qui étaient racontées dessus. De base, c'est une encyclopédie partagée. Donc, c'est incroyable qu'ils aient réussi à créer ça. C'est genre, tout le monde s'est dit, on va partager notre savoir. Et par contre, on va essayer de faire ça bien. C'est vrai que tout le monde peut modifier, mais il y a quand même des règles. C'est une communauté qui est gérée par beaucoup de personnes. et il y a des règles et l'information est de plus en plus vraie. Il y a toujours, ils envoient toujours vers des références. On peut même, grâce à Wikipédia, aller vérifier ces références. Donc c'était pour ça, voir le rapport, si le rapport des profs avait changé, un peu évolué.
Bah, par moment.
Un peu moins.
Un peu et moins. Bon. Tant que ça. Donc ça, c'est pour ce domaine informatif, s'informer par Internet. Vous avez d'autres utilisations d'Internet que juste pour rechercher des informations et travailler dessus? Dis-moi, Baptiste.
Bah, pas forcément pour travailler dessus, mais surtout pour parler en Wi-Fi, par exemple, avec certaines applications comme Snapchat, Instagram, Twitter, Facebook. Et voilà.
On arrive aux réseaux sociaux.
Mais aussi certains jeux en ligne comme en ce moment Fortnite qui est très connu et d'autres jeux que certaines personnes jouent beaucoup et ne peuvent pas vraiment s'en arrêter.
Tu joues toi à ces jeux-là?
Ouais, mais pas autant que certains potes.
D'accord, tu as les parents derrière qui te disent attention, pas trop.
C'est pas plus mal.
Oui, bien sûr, c'est bien que tu t'en rendes compte. Mia, tu utilises pourquoi les réseaux sociaux aussi?
Surtout pour discuter avec mes amis des fois. Ah. C'est plus simple qu'avec les messages. Enfin, moi je préfère. Oui. Je trouve ça c'est mieux.
Tu discutes sur quelle application?
Instagram, j'utilise.
Toi Instagram pour discuter. Snapchat, tu nous disais.
Ouais.
Manon, tu utilises les réseaux sociaux toi ou les jeux?
Moi oui. Les réseaux sur Snapchat, Insta, Facebook.
Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux que vous avez laissé tomber? Qui deviennent alors. Je vais utiliser un langage de vieux,
quoi.
Mais obsolète, j'allais dire has-been,
ouais.
Mais ça.
Ouais, non, mais ouais, obsolète.
Qui deviennent obsolètes, où vous sentez que c'est dépassé pour vous, oui?
Par exemple, Facebook, Twitter, ouais. J'ai jamais eu et je verrais pas pourquoi je devrais en avoir, parce qu'il y a aucun de mes amis ou.
Ouais. Tu vois pas l'intérêt, toi.
D'accord.
Ouais.
Dites-moi, Mia, toi, il y a des réseaux sociaux que tu as laissé tomber aussi, ou pas? Ou qui t'intéressent pas?
Au début, j'avais Snapchat, mais au final, moi, c'est pas beaucoup servi. Puis j'ai pris Instagram et on peut faire plein de choses avec, donc c'est mieux. Moi, j'ai que ça.
D'accord.
Moi,
Instagram.
Un peu comme Mia, j'avais au début deux ou trois réseaux sociaux, du genre Instagram, Snapchat et d'autres. Mais maintenant, je m'en sers plus du tout, j'ai plus de réseaux sociaux, je suis moins connectée.
D'accord, t'en as aucun. Et Manon, toi?
Oui. Moi, j'ai Snap, Insta et Facebook. Mais après, moi, je m'en sers beaucoup. Donc,
D'accord. Toi, tu t'en sers beaucoup, contrairement à tes collègues.
Ouais.
Y a vos parents ou des adultes qui sont derrière vous pour regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux ou pas du tout? Vous êtes livré à vous-même? Oui.
Moi, au début, oui. Mais après, en ce moment, j'ai besoin d'un peu plus rester dans mon monde. Et éviter tout contact avec mes parents, éviter qu'ils sachent ce que je veux dire.
Et oui, tu as un âge où tu n'as pas envie qu'ils... bien sûr,
ouais, c'est un peu énervant.
Oui, Manon.
Moi, au début, ils regardaient. Au début, quand j'ai eu les réseaux, et puis maintenant, ils me font confiance. Ouais.
Est-ce que vous êtes au courant des dangers que peut apporter ces réseaux sociaux? Ou pas, Mia?
En fait, on a fait un chapitre en EMC, en histoire géo avec le prof, et on a travaillé sur tous les dangers, les avantages des réseaux sociaux. Donc, du coup, on est au courant quand même.
Vous le voyez en classe, c'est bien. Quatrième, être déjà sur Snapchat, Instagram, tout ça. Quentin, qu'est-ce que tu
penses? Ouais, non, c'est normal, tu vois, faut vivre avec son temps, il faut accepter aussi que les choses évoluent. Faut pas oublier que le numérique, ce ne sont que des outils. Et souvent, on dit c'est le mal absolu, etc. Non, c'est qu'un outil, c'est que ce qu'on en fait. Et après, c'est juste au rôle de ceux qui connaissent, soit des parents, des grands frères et tout, de prévenir. Comme on l'a tous été sur plein de choses, on est prévenu. Attention, tu vois, tu peux avoir des dangers là-dessus, mais si tu fais pas n'importe quoi, tu t'exposes pas trop. C'est pas grave, faut pas oublier que le web, y a rien de privé. Faut arrêter avec ça. En tout cas, à mon sens, tout est public. C'est comme une place publique. Donc après on peut mettre des accès, ok, c'est pas accessible à tout le monde, mais ça reste quand même une grande place publique, le web. Donc c'est normal qu'il soit, et ça crée du lien aussi avant tout. Donc c'est vrai qu'on a une vision des fois, c'est trop, même moi des fois ça, quand je vois des trucs sur Insta et tout, on est un peu à l'heure de s'exposer et l'ego trip avant tout, et c'est un peu dommage, mais bon, c'est peut-être dans la nature humaine, quoi, je sais pas. Mais non, il n'y a rien de mal. Après, ce qui est rigolo, c'est que nous, pour nos clients, on leur préconise certains réseaux. Et on disait que Facebook, c'était un réseau social qui est super vieillissant. Enfin, super vieillissant. En gros, je suis un peu la génération, entre guillemets, à utiliser à 25 ans. Nous, on avait MSN Messenger, on utilisait ça pour communiquer. Et Facebook est arrivé à ce moment-là et on a tous délaissé. Et c'est mort et on est passé sur Facebook. Et eux, leur génération, qui est un peu la génération de moi, et ben, Facebook, ça les intéresse plus, apparemment. Enfin, en plus, ce que vous disiez, quoi, vous n'êtes pas beaucoup dessus, au final, Facebook. Et même, tu ne vois pas trop l'intérêt. Parce que si tu consommes différemment Facebook, tu peux vraiment le prendre comme de l'info. En tout cas, ça peut être un flux d'actu que tu te prends pour ton info. Et quand t'es plus jeune, c'est pas forcément ce que tu recherches. Tu cherches juste, je pense, en lien avec tes collègues.
Oui. Enfin, bref. Ouais, on voit que ça prend le dessus, Instagram, Snapchat, tout ça.
Ouais, Instagram, c'est le réseau social qui monte énormément, un peu avec Pinterest aussi, mais Insta, ça fait un ou deux ans où ils sont en train de tout exploser. Et c'est parce qu'en fait, on est dans l'image. On est dans la consommation d'image énormément. C'est un peu de ce dont je parlerai à 13h30 sur la table ronde. Mais il y a cette consommation d'image et Insta est là-dedans, en fait, où on va très vite, en fait. On prend, c'est la concurrence de l'attention et voilà.
Toi, Mia, qui est sur Instagram, tu postes beaucoup de photos ou pas spécialement?
Non, pas tellement. Enfin, j'en ai posté quelques-unes pour montrer des choses, mais sinon, j'en ai mis quand je pars en voyage, mais pas trop non plus.
D'accord. Tu parlais de ta table ronde à 13h30, tu interviens sur l'image, c'est ça?
Ouais, c'est une table ronde sur le e-tourisme, enfin l'évolution du tourisme par le numérique, les enjeux, etc. Et on est juste là, la petite problématique, c'est la promotion de l'image, l'importance de l'image, pardon, dans la promotion numérique. Voilà, en gros, donc un peu qu'est-ce qu'une image, comment se mettre en avant par l'image, est-ce que c'est réellement important ou non? Enfin, oui, ça l'est, ça, on en est tous conscients. Et voilà, c'est apporter quelques réponses en tout cas sur l'image en général.
Vous passez combien de temps à peu près sur le web par jour, vous, Victor?
En habitude, à peu près une heure, mais ça dépend les cas. Par exemple, quand on est à l'école, on n'a pas le droit de s'en servir. Mais le week-end, je pense qu'on peut s'en servir une heure et demie.
Une heure et demie le week-end.
Dans la journée répartie.
Vous avez le droit au portable au collège?
À les avoir, oui, mais pas à s'en servir.
Ah ouais, ok. Mmh. Mais dans la cour, vous avez le droit quand même?
Non.
Non, sérieux?
Non, ouais. Les avoir.
Ah putain.
Non, mais okay. C'est fini, hein. Je crois qu'il y a une loi qui est passée.
Ah ouais, hein. Ouais, j'ai pas du tout suivi.
Il me semble qu'il y a une loi qui est passée.
Ouais, c'est bizarre. Enfin, ouais, bon, ok. C'est pas le débat.
C'est bizarre ou pas, je sais pas.
Ouais, non, mais ça se pose, ouais.
On peut avoir, la question peut se poser. Manon, tu passes combien de temps à peu près, par jour ou par semaine ou...
Moi, je suis interne, du coup, la semaine, j'ai pas mon téléphone, mais du coup, le week-end, je reste beaucoup dessus.
Tu te rattrapes.
ouais.
Ouais, Baptiste?
Moi, au début, je passais un peu de temps. Après, des fois, quand il y a des événements particuliers, on passe beaucoup plus de temps que... Que d'habitude.
Des événements particuliers, c'est-à-dire
Récemment, là, en ce moment, il y a la Coupe du Monde féminine. On parle beaucoup. Et s'il y a eu des notes en classe ou certains événements du genre un tournoi ou je sais pas quoi au collège, c'est plus facile d'en parler à la maison que d'être en face.
Ouais. Et vous parlez à plusieurs, des discussions à plusieurs, c'est ça?
C'est possible, ouais.
Ouais. Mia, combien de temps à peu près, toi?
Des fois quand je rentre des cours, je m'y mets un peu, mais bon, il y a des devoirs à faire, donc voilà, on arrête. Non, des fois le soir, après, je discute un peu avec mes amis, mais enfin, ça dépend. Le week-end un peu plus, parce que forcément, on n'a pas cours, mais bon, voilà.
Baptiste,
il parlait des discussions à plusieurs. Et aussi, c'est un avantage sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut faire des groupes de classe ou même des groupes d'amis.
Personne n'a WhatsApp, là, de vous? Si, toi, tu as WhatsApp?
WhatsApp, c'est facile, c'est pratique à utiliser. C'est pas du tout comme Instagram ou Snapchat, parce qu'on peut pas vraiment poster de photos, c'est pas le but.
Non, c'est vraiment... Oui,
de pouvoir discuter avec des gens partout dans le monde. Si on a de la famille loin ou des choses comme ça, c'est pratique.
Vous avez tous des portables, des smartphones?
Ouais.
Depuis quand? C'est nouveau ou depuis assez longtemps?
Moi, en sixième.
Sixième? Toi aussi,
Victor?
Moi aussi,
j'ai reçu sixième.
Moi, le portable, sixième, pareil.
Ok, sixième. Vous regardez principalement sur votre téléphone ou vous avez aussi des ordinateurs, la maison,
par quel moyen? C'est ça que je veux savoir aussi. Ouais. Les ordis, ouais, vous utilisez encore les ordis quand même?
C'est ça. Oui, Mia?
Moi, j'ai une tablette chez moi que j'utilise pour les recherches, surtout pour les devoirs, parce que c'est plus gros l'écran, donc c'est plus facile.
Ouais.
D'accord, oui.
Bah, moi, je me sers des ordinateurs, parce qu'on peut avoir certains logiciels qui nous servent à faire nos exposés. C'est beaucoup plus facile à faire nos recherches par ordinateur. On a le copier-coller, ça va plus vite.
Le sacré copier-coller. Manon ?
Moi aussi, je me sers des ordinateurs pour les exposer, mais sinon, je me sers de la tablette pour regarder des films, Netflix par exemple.
Ouais. On n'a pas parlé des films en streaming, mais c'est un sujet aussi.
Ouais, ouais. Carrément.
Baptiste ?
Moi, j'ai un PC pour moi.
T'as un PC ?
Si je veux faire des études plus tard.
D'accord, un vrai PC avec une tour, ouais. Un écran, pas un portable.
Non, un PC portable, comme celui-là d'ailleurs, c'est le même.
Et du coup, tu parlais, c'était intéressant, maintenant tu parlais de Netflix. Vous regardez des séries ou des films en streaming tous ?
Oui.
Oui, Mia ? Pareil, Victor ?
Moi, je regarde beaucoup de séries et en streaming avec Netflix.
Ouais, moi aussi. Ouais, c'est pratique. Quand tu as envie un soir de regarder en famille quelque chose, toi dessus, il y a plein de choses à regarder. Enfin, c'est rigolo.
Ouais, c'est sûr. Ouais.
C'est fou, hein, les Netflix.
Ah ouais. Ben ouais, après c'est normal aussi, c'est un nouveau média qui propose du contenu, et en fait du contenu intéressant, en tout cas, enfin il y a énormément de contenu, et qui est peut-être plus intéressant qu'à relayer la télé au second plan, voire très très loin, parce que peut-être que le public était plus là, et en tout cas ça intéressait plus, et je pense, tu vois, même moi, notre génération, tous mes potes, la télé... Ça fait longtemps qu'elle est finie, quoi.
Mais oui, vous regardez la télé encore ou pas du tout ? Est-ce que vous branchez la télé et vous changez de chaîne, pianoter pour trouver un programme qui vous intéresse, ou ça c'est fini ? On a la tablette et on va chercher le programme qu'on veut, Victor ?
La télé, je trouve que c'est dépassé, on s'en sert plus.
Ouais. Ça, vous en servez pas ?
Pour utiliser Netflix, par exemple.
Ouais.
On se sert de la télé.
Mais ça, oui, c'est par Internet, c'est juste un écran qui te. Oui. Oui, Mia ?
Moi, la télé, quand j'étais petite, je me rappelle, je la regardais beaucoup, mais au final, maintenant il y a Netflix, donc voilà. Ou sinon, quand il y a des événements importants sur les informations, bon, on les regarde, mais c'est tout.
Vas-y, Baptiste.
Moi, la télé, au début, je la regardais beaucoup, mais en ce moment, il y a de plus en plus de chaînes payantes pour regarder, par exemple, des séries et des films. Donc, je m'en sers plus pour jouer à des jeux vidéo.
Et quand il y a des programmes qui sont à la télé sur TF1 ou d'autres chaînes, est-ce que vous attendez qu'ils soient en replay pour aller sur le site internet de la chaîne le regarder en replay, ou vous avez quand même toujours, cette habitude d'aller directement pour le voir en direct, ce programme télé ?
Moi, je ne vais pas le voir en direct. C'est les films que je veux revoir, je les revois en replay.
En replay, voilà, c'est que du replay, ouais. C'est ça, ça confirme toutes les études qui se font actuellement.
Ils ont dû, toutes les grandes chaînes ont dû réinventer leur offre. Ça fait un moment maintenant, mais toutes ont des plateformes de stream et de replay. Elles ont dû s'adapter au public et au nouveau public et au nouveau mode de consommation, en fait, parce que tout ça reste que de la consommation. Et moi, je voulais leur demander, vous téléchargez un peu ou pas ?
Oui.
Non, je ne télécharge pas parce que je pense pas que c'est légal et j'ai jamais trop cherché.
Non, c'est après que ce soit légal ou légal, c'est vraiment juste pour le.
Parce que ça
après,
fait...
même si c'est illégal, c'est pas grave, on peut en parler. Hein.
J'ai jamais, cherché à télécharger.
Ouais, t'as pas cherché et tout.
Manon ?
Moi aussi, j'ai jamais cherché à télécharger. Et moi, sur Netflix, après, déjà, ça me prend beaucoup, une grosse partie de mon temps, du coup.
Oui, vous avez assez propositions. Oui,
moi,
Baptiste.
J'ai eu un mauvais truc en enfance. J'ai téléchargé un truc payant et ça m'a coûté un peu cher.
Ah ouais.
Du coup, depuis, j'ai
téléchargé. Ouais,
t'es vite. Tu as pris un petit savon.
Ouais. Non, moi, je télécharge pas vraiment parce que, comme Manon, il y a Netflix. Donc,
Et ouais, on n'a plus besoin.
Et c'est pour ça que je posais cette question. Moi, je me souviens quand nous, on a eu à 13-14 ans, on a commencé à tous avoir vraiment des ordi et une bonne connexion Internet. Tu vois, vraiment, où ça commence à être intéressant. Et en fait, on téléchargeait tous. Hein, mais tous. C'est incroyable. Et, mais le nombre de films, de jeux qu'on téléchargeait, c'était incroyable. Et c'était un gros problème pour... cours. Alors les majors, etc., les boîtes de prod ont commencé à flipper, à dire, ah, c'est un problème et tout. Bon, au final, ils ont quand même réussi à s'enrichir. C'est un autre débat.
Oui,
bon,
oui.
Voilà. Et donc, il fallait trouver une solution alternative à ça, en fait. Et iTunes a commencé à proposer du contenu payant pour éviter ça. Et en fait, on se rend compte qu'avec Netflix, il y a Steam aussi pour le jeu vidéo qui a fait beaucoup. Une plateforme où en fait on paye pas énorme pour avoir des jeux vidéo. On a plus besoin de télécharger. Et au final, c'est pas très cher. Et maintenant, n'importe quelle plateforme, t'as les stores et sur Xbox ou PlayStation, tu peux télécharger tes jeux. Et ça a eu un gros avantage, en tout cas je le vois en tant que passionné de jeux aussi, c'est que ça a permis aux indépendants, aux petites structures, aux petits producteurs de jeux vidéo, de se faire un nom et de pouvoir vivre en fait. Parce qu'avant, pour produire, il fallait que tout soit physique. Maintenant, on peut produire sans rien faire de physique, donc plus de distribution, plus de boîtiers, etc. Donc c'est beaucoup moins cher et ça permet à des petites boîtes de prod de vivre. Et on a des petits jeux indépendants qui vont chercher autre chose, des films indépendants et comme ça qui arrivent à se diffuser, tu vois, avec les plateformes vidéo qui sont gratos, genre Vimeo, YouTube, etc. Donc ouais, le téléchargement, peut-être encore un truc à l'ancienne, quoi.
C'est peut-être un truc à l'ancienne. C'est vrai qu'on n'avait pas toute cette offre pour répondre aux besoins des utilisateurs à l'époque. Mia, Baptiste, Manon, Victor, merci d'avoir participé à ce plateau. Je vous laisse parce que je vois votre professeur qui vous appelle parce que c'est l'heure de manger. Merci beaucoup. Je vous laisse y aller. On va finir l'émission avec Quentin. Et surfez pas trop, achetez des livres quand même. Hein. C'est important.
C'est sûr.
Quentin, t'es au Massegros, donc à la ruche.
Au Monassier,
ouais. À la ruche. Rappelle-nous un peu ce principe de la ruche.
Donc c'est le rucher du Tilleul qui a été créé il y a 4 ans, je crois, 3-4 ans, je ne sais plus exactement, par la commune du Monastier, qui est la commune de Bourg-sur-Colague maintenant. Ils se sont réunis avec Chirac. Donc en fait, c'est un bâtiment que la municipalité a totalement rénové, qui permet d'accueillir des entreprises de tout type. Donc là, il y a 5 locaux qui sont entièrement neufs, faits par l'architecte. Donc c'est très très bien pensé. On a tout ce qu'il faut sur place. Donc en fait, on est 5 entreprises, il me semble. Donc il y a nous, AFA Multimédia. Il y a à côté de nous, il y a les Ateliers Sauvages de Sophie Thiers, qui est graphiste et illustratrice aussi. Il y a un architecte, le cabinet d'architecte de Le Compas dans l'œil de Jean-Marc, et Luc Monet qui est horloger, qui a été meilleur ouvrier de France aussi quand même. On a ça en Lozère. C'est un véritable artiste.
Extraordinaire.
Et on a aussi les ambulances castants qui sont là dans le plus petit local.
Pour mettre l'ambiance.
Voilà. C'est super intéressant parce que il y a une pièce commune, il y a une salle de réunion commune, donc on mange ensemble le midi. Ça crée une synergie. En fait, même si on est tous des domaines différents, des domaines d'activité différents, ça crée une synergie et surtout ça fait revivre un village. Le pari, c'est vrai qu'on a en discuté avec M. Bougnol, qui est le maire du Monastier. Ça venait de lui, cette initiative. Et on le prenait un peu pour un fou parce que faire venir des entreprises dans un tout petit bled de Lozère, c'est pas si simple. Mais en fait, si, c'est simple parce qu'on est beaucoup de petites entreprises dans Lozère, beaucoup d'indépendants, énormément. Et on cherche tous des locaux. Pas trop cher parce qu'on a des petits budgets mais qui soient de bonne qualité et tout. Et quand on voit les prix des locaux amendes, on préfère aller se rabattre sur le petit village, c'est plus sympa quoi. Et ça fait de la vie, donc c'est cool.
Exactement. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Merci. On va quitter l'antenne et on vous retrouvera à 14h30 pour la diffusion de la conférence numérique et territoire et un nouveau plateau en direct de 16h30 à 17h avec Pauline Morin de Lozère Nouvelle Vie et des candidats à l'installation en Lozère du job dating qui va se dérouler juste avant. Allez, une pause musicale et après, à midi, vous retrouverez le programme habituel jusqu'à 14h30 avec les informations locales. Midi 15 de Léa Jacquet et tout le programme habituel, programme télé et compagnie.